parole?
Amen. Donc, on va prendre nos Bibles ce matin et on va faire notre déclaration. Et on va continuer notre série sur la fin des temps. Et j'ai hâte de partager ce message. C'est un message qui va nous transformer si on se laisse transformer par la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on aime faire à la vie comblée? On croit que la Bible est inspirée de Dieu. On sait que la parole va faire toute la différence. Même on voit en Hébreu, par exemple, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a dit aux Hébreux, c'est que ceux qui ont reçu la parole dans l'Ancien Testament, ceux qui ont eu la prédication de la parole, ce n'était pas vraiment une chose qui a profité et ça n'a pas changé leur vie parce que qu'est-ce qu'ils ont entendu n'était pas mélangé avec la foi. Amen. Donc, vous savez-vous que vous pouvez écouter le message ce matin et vous pouvez partir d'ici sans être changé, si vous voulez. Ou si vous désirez être transformé à l'image de Jésus-Christ, si vous voulez que votre vie soit changée, vous pouvez être changé. La différence, ça dépend de vous, ça dépend de votre attitude du cœur, et si vous allez recevoir avec foi la parole de Dieu ce matin. Combien de vous croyez que la Bible est inspirée de Dieu? Amen. Et moi, je crois et je sais que l'onction de l'Esprit-Saint est sur moi en tant que pasteur aussi et que j'ai une mesure de l'Esprit-Saint sur moi pour enseigner la parole de Dieu. Donc, cette combinaison, l'onction de Dieu et la parole ointe de Dieu va faire en sorte que si nous recevons les choses par la foi, nous serons transformés de gloire en gloire en son image. Amen. Donc, on va faire cette déclaration. Si vous avez une Bible avec vous, prenez votre Bible. Sinon, il y a des notes à l'intérieur de votre Bible qu'on va, vous pouvez prendre. Et on va dire, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la parole incorruptible de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Je serai pour toujours changé. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, si vous voulez aller avec moi en 2 Pierre, chapitre 3, nous allons continuer la troisième leçon sur la fin des temps. Et c'est une chose positive. Comme j'ai dit souvent, quand les personnes enseignent sur la fin des temps, c'est vraiment une chose épeurante et les gens ont peur, et ils sont craintifs et ils quittent la salle un peu déprimés. C'est pas le but. On va quitter aujourd'hui avec un sourire, amen, avec la joie dans le cœur, mais aussi avec un peu de sérieux en sachant que Jésus revient bientôt et que nous avons quelque chose à faire avant qu'il revienne. Amen. Donc, je veux vraiment que ça soit clair. Peu importe qu'est-ce que vous avez entendu dans le passé concernant la fin du temps, concernant la tribulation, concernant le jugement du monde, concernant l'antéchrist et concernant la bête, la marque de la bête et toutes ces choses, on va parler de toutes ces affaires. Mais qu'est-ce que vous allez voir? C'est que si vous êtes en Jésus-Christ, vous n'avez rien à craindre. Amen. Ce sont des choses qui sont vraies, qui sont prophétisées et qui vont avoir lieu bientôt sur la terre. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons rien à craindre. 2 Pierre, chapitre 3, verset 3. La semaine passée, nous avons parlé des signes de son retour. On a vu qu'on a plusieurs signes qui ont été mentionnés dans les Écritures qui nous montrent la saison de son retour. Personne ne sait le jour, personne ne sait l'heure quand Jésus va revenir, mais on peut savoir la saison. On peut être sûr que c'est bientôt. Comme la Bible dit, Jésus vient comme un voleur dans la nuit pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais pour ceux qui connaissent Jésus, il ne vient pas comme voleur. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous ne serons pas surpris par son retour. On va savoir qu'il revient bientôt. Amen. Mais en 2 Pierre, chapitre 3, verset 3, c'est marqué, « Sachez avant tout que dans les derniers jours, apparaîtront des gens qui vivront selon leurs propres désirs. » Ça, c'est vrai, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez remarqué que les gens sont de plus en plus égoïstes aujourd'hui? Ils se moqueront de vous. Ne soyez pas étonnés si les non-croyants se moquent des croyants. Amen. Et on le voit à la télévision, dans la vie quotidienne, il y a des personnes qui se moquent des chrétiens. Mais ils se moqueront de vous et diront, Il a promis de venir, n'est-ce pas? Eh bien, où est-il? Nos pères sont déjà morts, mais tout reste dans le même état que depuis la création du monde. Ils oublient volontairement ceci. Il y a longtemps, Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. La terre a été séparée de l'eau et formée par l'eau. Et c'est également par l'eau, celle de la grande inondation, ça parle du temps de Noé, que le monde ancien a été détruit. Quant au ciel et la terre actuels, la même parole de Dieu les tient en réserve pour le feu qui les détruira. Ils sont gardés pour le jour de Dieu, ils sont gardés pour le jour du jugement et de la ruine des pécheurs. Mais il est une chose que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensent. Mais il use de patience envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa... Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal, ou on peut dire de se repentir. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un fracas effrayant. Les corps célestes seront détruits par le feu. La terre, avec tout ce qu'elle contient, cessera d'exister. Ça, c'est assez clair, n'est-ce pas? Et c'est vrai. Aujourd'hui, on voit les personnes qui se moquent. On parle du retour de Jésus, et oui, tout le monde en parle de cela. Mes grands-parents ont parlé de ça. Leurs grands-parents ont parlé de ça. Mais vois-tu, tout est le même, il n'y a rien qui change. Non, Jésus revient bientôt. Et même si les gens se moquent, ils ont oublié une chose. C'est que même les gens du temps de Noé se moquaient de Noé. Quand il construisait l'arche, et la Bible dit que ça prenait des centaines d'années pour lui de construire l'arche, il construisait l'arche et les gens se moquaient de lui. Imagine, il construit un arche sur la terre et il dit, oh mais à l'époque, ils n'ont même pas vu une fois une goutte de pluie parce qu'ils n'ont jamais vécu la pluie avant l'inondation. C'est seulement après l'inondation que la pluie est tombée. C'est lors de l'inondation que la pluie est tombée sur la terre la première fois. Donc, les hommes méchants se moquaient de Noé. Mais Noé, un prédicateur de justice, il a obéi à la parole de Dieu. Et un jour, tout le monde a vu que Noé avait raison. Amen? Ça va être exactement la même chose aujourd'hui. On parle de Jésus, on parle de son plan, de son retour, et le monde se moque de nous. Mais sachez une chose, c'est pas parce qu'il est en retard, c'est parce qu'il est patient. Il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous viennent à la repentance. Amen. Jésus revient, il revient bientôt. Et il y a un autre verset, en verset 11, je l'ai mis dans vos notes, dans la parole vivante, ça continue, verset 11, en disant, « Puisque cet univers doit être ainsi détruit, combien devez-vous vous efforcer de rester attaché à Dieu et de mener une vie qui lui soit entièrement consacré. Vivez dans l'attente de l'avènement du jour de Dieu et même, en même temps, travaillez pour en hâter la venue. Ce jour-là, il est vrai, les cieux embrasés se dissoudront et les éléments en feu se liquéfieront. Mais nous, nous attendons ce que Dieu a promis, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Donc, on voit trois choses, juste dans vos notes, et, on ne va pas prendre beaucoup de temps là, mais il y a trois choses qu'on peut observer dans les versets qu'on vient de lire. La première chose qu'on peut constater, c'est que Jésus revient pour juger le monde. Quand il est venu la première fois, il est venu pour sauver le monde. Vous êtes d'accord? Il est venu comme sacrifice, comme l'agneau immolé avant la fondation du monde, il est venu, il a donné sa vie sur la croix, il est mort, il était enterré, le troisième jour, ressuscité. Il a même dit en Jean 3 qu'il n'est pas venu pour juger le monde. Vous êtes d'accord? Et maintenant, nous vivons l'âge de grâce. C'est vendredi, Dieu merci, c'est vendredi, comme on a dit dans les autres semaines. Samedi s'en vient, mais C'est maintenant le jour. Aujourd'hui est le jour du salut. Si les hommes vont être sauvés et faire partie de l'Église, maintenant c'est le temps d'accepter Jésus par la foi et être né de nouveau et recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Amen. Mais le jour de la grâce, la sixième dispensation de Dieu va bientôt prendre fin. Et quand ça prend fin, on va voir après 7 ans de tribulation que Jésus-Christ va revenir sur la terre. Mais quand il revient, il va revenir avec les armées des cieux et il va venir pour exercer un jugement sur la terre. Amen? Et c'est une chose qui est sérieuse. Regardons qu'est-ce que la Bible dit, et c'est dans vos notes encore, en 2 Thessaloniciens chapitre 1. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi est-ce qu'il vient la deuxième fois? Et c'est marqué, une des raisons pour laquelle il vient, c'est pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que Dieu est un Dieu d'amour? Oui. Et il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut. Amen. C'est pas demain, mais aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, je veux dire pendant l'âge de grâce. C'est même le temps que les hommes ont besoin de se repentir et de venir à Jésus-Christ. Parce que Jésus revient. Et c'est pas le petit Jésus. Et je pense qu'il y a beaucoup des personnes religieuses qui vont être bien, bien étonnées de voir Jésus-Christ venir en puissance et avec gloire et avec autorité, avec une épée qui sort de sa bouche pour exercer un jugement sur la terre. Amen. On sait que Dieu est miséricordieux, il est plein de compassion, mais la Bible dit aussi que Dieu est un feu dévorant et que Jésus va juger les péchés, Jésus va juger les nations et ceux qui ne connaissent pas Dieu vont être punis. Est-ce qu'il veut les punir? Non. Est-ce qu'il va prendre plaisir en les punissant? Non. Mais est-ce qu'il est saint? Est-ce qu'il est juste? Oui. Est-ce qu'il va le faire? Oui. Amen? Donc c'est sérieux, n'est-ce pas? Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus vient pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et la gloire et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints. Est-ce que vous êtes un de ses saints aujourd'hui? Donc, vous n'avez rien à craindre. Il ne vient pas pour vous punir. Il vient pour être glorifié en vous. Amen. Pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen. Donc, Jésus vient. Et quand il vient, la deuxième fois, on ne parle pas de l'enlèvement de l'Église ici, mais on parle du deuxième retour de Jésus-Christ. Il vient pour exercer un jugement, pour punir les non-croyants, mais pour être admiré par nous qui avons cru et pour être glorifié dans tous ses saints. Amen. Il revient bientôt pour juger. Deuxième chose qu'on voit dans ces versets, c'est que Jésus attend la moisson avant de revenir. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore venu? Les gens se moquent de nous parce qu'on dit que Jésus revient et ils disent, ah, mais regarde, rien n'a changé. Ils ont oublié qu'avec le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme 1 jour. Mais la raison pour laquelle il n'est pas venu, c'est parce qu'il use de patience envers nous, la Bible dit, ne voulant qu'aucun périsse. En fait, Dieu est tellement bon, il nous aime tellement que Jésus a retardé son retour juste parce qu'il voulait remplir sa famille davantage. Amen? Non, pas encore satisfait. Je veux avoir plus d'enfants. Il est un bon père, n'est-ce pas? Il veut avoir une grosse famille. Je pensais que j'avais beaucoup d'enfants avec 5, mais c'est rien comparé du cœur du Père céleste. Il veut une grosse famille glorieuse qui marche dans l'unité et qui marche dans l'amour. Amen? Mais il attend la moisson. Jacques, chapitre 5, 7 dit, « Prenez donc patience, frère, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. » Voyez comment le cultivateur ou le fermier prend patience en attendant que la terre produise de précieuses récoltes. Il sait que les pluies d'automne et de printemps doivent d'abord tomber. Prenez patience, vous aussi, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Jésus revient pour juger le monde, mais avant de venir, il attend la moisson. Il y a une chose qui le retient maintenant, c'est parce que nous sommes ici sur la terre. L'Église est encore sur la terre aujourd'hui pour une seule raison, c'est d'aller amener la récolte, le précieux fruit de la terre. Jésus veut une grosse famille, et comment est-ce qu'il va avoir une grosse famille? Ça, c'est notre responsabilité. Amen? Et c'est pourquoi la troisième chose qu'on voit dans les notes, c'est que, en tant que croyants, nous avons le pouvoir, nous pouvons hâter son retour. Savez-vous que quand Jésus vient, dépend beaucoup de nous et de qu'est-ce que nous faisons? Tout le monde dit, ça dépend de moi. Ah oui? Oui. Savez-vous qu'il y a des personnes qui ont une idée dans la tête, est-ce que Dieu connaît toutes choses? Oui. Est-ce que Dieu sait déjà quelle journée, quelle heure il va venir? Oui, il sait tout en avance. Lui, il connaît le passé et le futur comme c'est aujourd'hui. Mais, une chose que nous ne devrions pas oublier, je ne pense pas que c'est avec Dieu, c'est juste une question de dire, OK, bon, le 5 janvier, c'est la journée que je vais envoyer Jésus. Non. La journée que Jésus va venir, c'est la journée que quand la récolte va être accompli et terminé. Amen. Alléluia. C'est comme quand on écoute la radio et quelqu'un dit la neuvième personne qui appelle va recevoir tel cadeau, hein, un voyage, je ne sais pas où, hein, un voyage en Irak. Donc, quelqu'un va prendre un voyage en Irak dès que une personne, quand est-ce qu'ils vont gagner? Dès qu'ils appellent. L'heure n'est pas fixe dans ce sens-là, tu comprends? Dès que la neuvième personne appelle, le prix est gagné. Et je crois que c'est la même chose avec le retour du Seigneur. Dès que toutes les nations de la terre seront évangélisées, dès que la récolte est ramassée, dès que les âmes précieuses sont sauvés et le nombre d'âmes qui sont supposées d'être sauvées sont sauvées, c'est là où Jésus va pouvoir revenir. Et c'est pourquoi nous pouvons ralentir ou nous pouvons hâter son retour. Amen? Et je ne sais pas ce qui vous concerne, mais moi j'aimerais hâter son retour, j'aimerais voir le Seigneur revenir bientôt. Amen? Parce que la vie avec lui est beaucoup mieux. Paul a dit, il était entre deux choses. Il avait le désir de partir, d'être avec le Seigneur. Il a dit, ce qui est de beaucoup le meilleur. C'est beaucoup mieux de vivre au ciel avec Jésus que de vivre ici sur la terre. C'est beaucoup mieux. Est-ce que vous êtes d'accord? Hallelujah! Mais on peut hâter son retour. Comment? En évangélisant, en partageant la bonne nouvelle. Matthieu 24, 14 dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Donc, on peut voir tous les autres signes dont on a parlé la semaine passée. On peut parler du figuier d'Israël qui a pris naissance comme nation encore, qui a repris naissance en 1948. On peut parler de la technologie, du transport. On peut parler du troisième jour. On peut parler de toutes les choses que Jésus, les temps difficiles, toutes les choses qui ont été écrites dans la parole de Dieu qui nous disent que nous sommes dans la saison de son retour. Mais la chose, vraiment la signe, c'est la signe ou le signe? Le signe! Le signe primordial pour le retour de Jésus, c'est quoi? C'est l'évangélisation des nations. Pourquoi est-ce qu'on a hâte d'envoyer des personnes dans les nations pour prêcher? Parce qu'on veut hâter le retour de Jésus. Amen? Et parce qu'on veut voir le plus grand nombre sauvé. Alléluia. Regardons Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Alléluia. En tant qu'Église locale, l'Église chrétienne la vie comblée, nous avons un rôle à jouer pour hâter le retour de Jésus. On n'est pas là juste pour jouer à l'Église. On n'est pas là juste pour venir dimanche après dimanche, chanter, prêcher, faire les autres choses que nous faisons. Laisse-moi vous dire une chose, ça c'est important, est-ce qu'il faut le faire? Oui! Mais Notre raison d'être principale sur la terre aujourd'hui, c'est d'évangéliser les nations. Notre ville, notre province, pour nous la francophonie, et au-delà. Et ça, c'est pourquoi nous sommes là. Et c'est pas juste pourquoi nous sommes ici, mais c'est pourquoi vous êtes ici. Tout le monde dit, c'est pourquoi je suis là. Sinon, laisse-moi vous dire, dès que quelqu'un serait sauvé, le Seigneur nous enlèverait tout de suite, on irait directement au ciel, et ça serait beaucoup plus de fun. Mais, ça serait beaucoup moins fructueux. En Romains 10, chapitre 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Est-ce que nous croyons vraiment à l'Évangile ce matin? Est-ce que vous croyez que sans Jésus, le monde est perdu? Est-ce que vous croyez que sans Jésus, vous êtes perdu? Donc, je pense qu'on a besoin de se poser la question, est-ce qu'on croit vraiment que si quelqu'un n'entend pas, la Bible dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Est-ce qu'on croit que si une personne n'invoque pas le nom du Seigneur, qu'il ne sera pas sauvé? Est-ce qu'on le croit? Selon la parole, c'est vrai. La Bible dit, comment est-ce qu'il peut invoquer s'ils n'ont pas entendu? Donc, est-ce qu'on croit vraiment que c'est important que les gens entendent l'Évangile? Et comment est-ce qu'ils peuvent entendre si personne prêche? Comment est-ce qu'ils peuvent prêcher si personne les envoie? Est-ce qu'on croit vraiment à l'Évangile? Alléluia! Mais je pense que des fois, en quelque part, si on croit, c'est comme si quelqu'un se tient dans la rue après l'église et il est là en train de jaser. Et un camion vient à toute vitesse. Et quelqu'un d'entre vous dit, « Hey, tasse-toi, il y a un camion qui arrive! » Et il ne bouge pas. Est-ce qu'il a cru au message? Non! Parce que si tu crois vraiment au message, tu vas faire quoi? Hein? Tu vas te tasser. Sinon, tu vas te faire écraser. Alors, donc, quand Jésus a dit « Allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à chaque créature, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. » Est-ce que vous croyez à cette parole? Est-ce que vous croyez assez pour ouvrir votre bouche? Est-ce que vous croyez assez pour dire quelque chose, pour que quelqu'un puisse entendre, pour que quelqu'un puisse croire, pour que quelqu'un puisse invoquer, pour que quelqu'un puisse être sauvé? Là, on parle d'un vrai message ce matin, n'est-ce pas? On dit, ah oui, on croit à l'Évangile, mais est-ce qu'on croit assez pour faire quelque chose? En fait, on dit, mais que puis-je faire? Et dans vos notes, je savais que vous allez poser cette question, donc j'ai déjà préparé la réponse. Mais que puis-je faire? Ah, je suis content que tu as posé cette question. Bonne réponse. Trois choses que vous pouvez faire. Premièrement, et c'est pas juste vous, c'est moi, c'est nous, donc je peux dire je dois prier pour la moisson. Amen? Que puis-je faire pour hâter le retour de Jésus? Je dois prier pour la moisson. Jésus a dit en Matthieu 9, 36 et 37, hein, de prier le maître de la moisson, d'envoyer les ouvriers. Jésus a dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Et quand Dieu regarde la moisson aujourd'hui, il y a des milliers et des milliards de personnes qui n'ont jamais entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. 6 milliards de personnes habitent sur la terre aujourd'hui et à peu près un tiers n'ont jamais eu l'occasion d'entendre la bonne nouvelle. J'aime qu'est-ce qu'un missionnaire a dit, personne ne devrait avoir le droit d'entendre l'Évangile deux fois avant que tout le monde ait eu l'occasion de l'entendre au moins une fois. C'est l'Esprit de Dieu qui nous parle ce matin. L'Esprit de Dieu qui nous réveille ce matin en disant, faites quelque chose. c'est la fin des temps, c'est le dernier jour, c'est vendredi soir, il y a quand même une moisson à récolter. Amen. La bonne nouvelle, comme j'ai dit la semaine passée, il y a des milliers de personnes qui viennent au Seigneur à chaque jour. Des milliers, des personnes par des milliers viennent. Quand des pays où c'est presque, il n'y a rien. Il n'y a rien. On pense au manger un cœur pour le Nord-Afrique. Il y a des pays là-bas qui sont arabes, mais aussi francophones. Maroc, Tunisie, Algérie. On a quelqu'un ici qui est même allé visiter quelques-uns de ces pays une fois. Mais je pense comme à Maroc, il y a quatre groupes de personnes avec plus de... Il y a 30 millions de personnes là-bas. Et très, très peu de croyants. Et il y a, sur les 30 millions, il y a quatre groupes de personnes. Et il y a seulement une église représentée dans une de ces quatre groupes. C'est-à-dire qu'il y a trois autres groupes de personnes dans ce pays qui n'ont aucune église. Aucune église. Si quelqu'un voulait aller à une église représentée par leur groupe ethnique, c'est impossible. Impossible, ça n'existe pas. En Tunisie, j'ai entendu qu'il y a 300, sur 10 millions de personnes, 300 croyants nés de nouveau. Et ça, c'est depuis quelque chose qui est arrivé assez récemment. C'était vraiment un grand réveil. 300 personnes. 300. Dans la province de Québec, on est quoi? Presque 7 millions, un peu plus que 7 millions. Et on sait qu'on est juste moins de 1% évangélique dans cette province. Mais quand même, juste à Drummondville, nous avons quand même au moins 500-600 chrétiens évangéliques représentés dans les églises évangéliques. Pensez à un pays avec 10 millions et il y a juste 300 personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que puis-je faire? On peut prier. Seigneur, envoie les ouvriers. Seigneur, envoie les ouvriers. Mais quand vous priez, envoie les ouvriers. Vous pouvez prier aussi, Seigneur, envoie-moi. Me voici. Amen. Que dois-je faire? Je dois prier pour la moisson. Une autre chose que je peux faire, je dois envoyer les autres. Philippiens, chapitre 4, on l'a déjà mentionné. Comment est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un d'autre? Encore un autre missionnaire bien connu a dit une fois, il faut que j'aille ou au moins envoyer un substitut. Jésus a dit, allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à chaque création. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Donc, à moins, soit je vais aller moi-même ou je vais envoyer un substitut pour moi. Amen. Comment est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un? Ça prend quoi pour envoyer quelqu'un dans l'outre-mer aujourd'hui? Ça prend quoi pour envoyer quelqu'un dans l'outre-mer aujourd'hui? C'est ça. C'est ça. Et en Philippiens chapitre 4, nous voyons, on parle des vraies choses ce matin. Voulez-vous que Jésus revienne bientôt? Il faut prier. Mais une autre chose, il faut donner aussi pour les missions. Comme on a fait la semaine passée. Merveilleux. 275 $ pour la mission. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Et on l'a fait dans le passé. On va le faire encore davantage dans le futur. Mais moi, j'ai hâte de voir la journée où l'Église, la vie comblée, puisse faire des gros chèques de 1000, 10 000 $ pour la mission sans avoir aucun problème. Amen? Ça, c'est le rêve de mon cœur. C'est vraiment le rêve de mon cœur. Nous ne sommes pas dans le tiers monde ici au Québec. Vous êtes d'accord? Nous sommes un peuple riche, béni. Nous vivons vraiment dans le luxe comparé à la plupart des pays dans ce monde. Amen. Et nous avons un rôle à jouer dans la francophonie. Notre église, mais les églises au Québec, nous avons un rôle à jouer pour envoyer l'évangile dans les autres pays francophones et au-delà. Amen. Et c'est de fun parce que quand on fait cela, on est béni davantage. Quand on donne, on reçoit. On donne et on reçoit. On donne et on reçoit davantage. Donc, plus on bénit les nations, plus nous serons bénis nous-mêmes. Et ça, c'est vrai, par exemple. Juste moi vous dire, plus les églises locales bénissent les missions, plus les églises locales sont bénies eux-mêmes. Je le sais, je l'ai vécu et je l'ai vu et c'est vrai. Alléluia. Donc, en Philippiens chapitre 4, je vais juste lire qu'est-ce que Paul a dit à propos de cela. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Alléluia. Donc, on va prendre le temps nécessaire ce matin, n'est-ce pas? Parce que de toute façon, dans le fond, c'est juste 10h moins 25. Hein? En Philippiens, chapitre 4, verset 15, l'apôtre Paul a dit, « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. » Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour vous, pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ceux qui viennent de vous. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. On aime citer ce verset, « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. » Est-ce que vous donnez pour les missions? Si vous ne soutenez pas les missions, vous n'êtes pas vraiment en mesure de citer ce verset et de réclamer ce verset pour vous-même. Est-ce que vous êtes là encore? Alléluia. C'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on croit à la bonne nouvelle? Est-ce qu'on croit que les gens ont besoin d'invoquer le nom du Seigneur? Oui. Que puis-je faire? Je dois prier. Je dois envoyer, et troisièmement, je dois aller moi-même. C'est pas assez juste de dire, OK, bon, ça c'est facile. Le monde a besoin d'être évangélisé, donne-moi mon chéquier. Je vais juste faire un chèque et envoyer un substitut. Ça marche si le Seigneur a appelé quelqu'un d'autre d'aller dans une telle place, et le Seigneur t'a appelé à rester ici. Amen? Mais si le Seigneur te parle en disant, OK, c'est à ton tour d'aller. Qu'est-ce qu'on devrait dire? Me voici, envoie-moi. Et on ne parle pas juste d'aller en outre-mer. Savez-vous que vous avez des voisins? Vous avez des collègues au travail? Vous avez des personnes de votre parenté qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus? Et on peut prier, Seigneur, envoie les ouvriers. Je m'en souviens la première fois que j'ai eu une révélation de cela. J'étais à Saint-Louis il y a quoi donc, à peu près 20 ans maintenant. Oui, 20 ans à peu près. Et j'étais dans ma garde-robe, parce qu'à l'époque, des fois, j'aimais aller dans la garde-robe prier pour pas être distrait. Je ne fais pas toujours, mais peut-être vous trouvez ça drôle, mais j'étais bien tranquille, personne ne peut me déranger. Mais je priais pour mon père, je priais pour mon frère, et je demandais au Seigneur d'envoyer les ouvriers pour croiser son chemin, pour qu'ils puissent venir au Seigneur. Et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu m'a inspiré à prier une autre prière. Seigneur, il y a d'autres personnes qui prient maintenant pour leur bien-aimé. Il y a quelqu'un qui prie peut-être pour son frère, pour son père. Et Seigneur, fais de moi la réponse à leur prière. Amen? J'ai prié comme ça. J'ai dit, j'ai jamais pensé à ça. Ça venait de l'Esprit. Cette soirée-là, je suis allé à l'église le mercredi soir, et en revenant de l'église, j'ai vu McDonald's, j'avais pas faim, j'avais pas un petit creux, quoi que ce soit, mais j'avais une impression dans mon cœur qu'il fallait arrêter et parler de vraiment, je savais qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de l'évangile. Donc j'arrête, et j'entre dans le restaurant, et tout de suite, je voyais un monsieur au comptoir qui commandait un café, et donc j'ai commandé un petit liqueur, et je me suis assis à côté de lui, à la table à côté de lui. Dans 5 minutes, j'ai commencé à jaser avec lui et je dis, Seigneur, monsieur, je venais juste savoir si tu as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il m'a regardé et dit, c'est drôle que tu me poses cette question. Et il sort de sa poche un traité d'évangélisation. Il dit, parce que ça fait un couple de jours que j'essaie de comprendre comment le faire. Quelqu'un m'a donné cela il y a quelques jours et il y a des choses que je ne comprends pas. Donc, on est sorti sur le stationnement du McDonald's, on a prié, il est devenu enfant de Dieu, juste là. Amen? Oui, donc il faut prier, il faut donner, mais il faut être prêt à aller aussi. Amen? Comme l'apôtre Paul a dit en Romains chapitre 1. Est-ce que vous êtes encore là ce matin? Alléluia! Nos vies lui appartiennent, et on va prendre le temps nécessaire pour finir là, OK? En Romains chapitre 1, verset 14 à 16, la parole de Dieu dit, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. » Amen. Paul a dit trois choses. Vous êtes d'accord que Paul était un bon gagneur d'âme? Il était bon pour amener des personnes au Seigneur Jésus. Mais Dieu veut que chacun de nous, c'est pas juste pour les évangélistes, c'est pas juste pour les pasteurs, les apôtres. La Bible dit que nous sommes tous, nous sommes supposés d'être les ministres de la réconciliation. Et si vous ne parlez pas, qui va parler à votre place? Amen? Trois choses qu'il faut faire pour hâter son retour. Trois attitudes. Trois choses. D'abord, il faut être capable de dire avec l'apôtre Paul, « Je me dois ». Tout le monde dit « Je me dois ». Qu'est-ce que cela veut dire « Je me dois » Ça veut dire « J'ai une obligation, j'ai une dette à régler. J'ai été pardonné et j'ai reçu gratuitement. Il faut que je donne gratuitement. » Imagine si quelqu'un qui est atteint par le sida découvre un remède et un vaccin qu'il peut prendre pour se vacciner, et ça marche, il est guéri. Et la personne qui lui donne le remède dit, écoute, voici comment ça va fonctionner. Tu vas te donner la piqûre, tu vas être guéri, mais après ça, tu vas aller trouver quelqu'un d'autre qui est infecté, tu vas lui donner le même remède. Imagine si la personne dirait, ah oui, c'est merveilleux, je suis guéri, et il prend le médicament, il tasse ça en dessous de son lit, et il dit, quel soulagement de savoir que je suis guéri. Qu'est-ce qu'on dirait? Écoute, tu as reçu gratuitement. Maintenant, ouvrez votre bouche, allez trouver quelqu'un d'autre et partagez la piqûre. Amen. Vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie et on peut dire, oh, ouf, gloire à Dieu, je sais que je ne serai plus obligé d'aller à l'enfer. Je suis sauvé par la grâce. Waouh, gloire à Dieu. Mais nous avons reçu la bonne nouvelle. C'est à nous de transmettre cette bonne nouvelle à notre voisinage. Amen. Je ne veux pas arriver au ciel et voir mes voisins qui sont dans le grand tronc blanc, qui sont jugés éternellement et pour aller à l'enfer pour éternité, me regarder en disant, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas parlé de Jésus? Est-ce qu'on est réveillé ce matin? Mais c'est là où on vit, n'est-ce pas? On parle de la réalité. Je sais qu'est-ce que c'est. Moi, j'ai été, Tanya et moi, on faisait le ménage comme pour gagner notre pain. On nettoyait les maisons à Tulsa quand on était à l'école biblique. Mais une journée, j'ai raconté cette histoire une fois peut-être, mais une journée, on arrive chez un monsieur qui était joueur de tennis professionnel. On avait nettoyé sa maison pendant 6 mois. On ne l'avait jamais vu de nos propres yeux parce qu'il était toujours absent. Il laissait les petites notes tout simplement. Il venait de l'Australie. Mais là, on rentre un jour et il est là. Et tout de suite, je savais dans mon cœur, maintenant, c'est le temps de lui en parler de Jésus. Et il était atteint d'un cancer. Et il a dit qu'il allait faire un voyage en Australie pendant 6 semaines, puis revenir et se faire opérer. Mais je savais dans mon cœur, il fallait lui en parler là. Mais j'ai hésité, j'ai dit non, mais tu sais, il va se moquer de moi ou il va me rejeter. Donc je ne l'ai pas fait. J'ai raisonné dans ma tête. Peut-être après avoir fini avec le travail, là je vais aller le voir et parler avec lui de Jésus. Donc j'ai fait tout le travail, mais entre-temps, une autre femme est entrée dans la maison et qui était dans la cuisine avec lui, et j'ai perdu mon occasion vraiment de lui en parler. Tout ce que j'ai dit, c'est que Dieu te bénisse. 2 semaines après, on rentre dans la maison, et un ami de lui appelle la maison en disant, « Je voulais juste que vous sachiez que Monsieur Tell est arrivé en Australie, il est décédé. » Est-ce que c'est par hasard que j'ai travaillé pour ce monsieur 6 mois, sans jamais voir son visage, sauf que 6 ou 7 jours avant sa mort, je l'ai rencontré. Laisse-moi vous dire, mon cœur, cette journée-là, je dis, Seigneur, j'espère que quelqu'un d'autre était plus fidèle que moi. J'espère que quelqu'un d'autre était plus fidèle que moi. Quand le Seigneur nous parle et quand le Seigneur nous demande de partager la bonne nouvelle, c'est une chose assez sérieuse, n'est-ce pas? En fait, on voit en Ézéchiel que le Seigneur a dit au prophète que, et c'est dans vos notes, et c'est marqué, quand je dirai au méchant, tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas de détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. C'est fort, n'est-ce pas? On est là ce matin. Mais Paul a dit, je me dois. Mais ce n'est pas juste une sens d'obligation ou une dette à payer. C'est une chose qu'on veut faire avec joie. J'ai un vif désir. Tout le monde dit, j'ai un vif désir. Encore, tu m'en dis, je me dois. J'ai un vif désir. comme Jésus qui a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est la nourriture de Jésus, c'était de faire la volonté de Dieu. Ça doit être notre nourriture. Plus que toute autre chose, ça devrait être la chose qui nous motive plus que n'importe quoi dans la vie, n'est-ce pas? Laisse-moi vous dire une chose. Si vous voyez une âme sauvée, il n'y a rien qui compare. C'est merveilleux, c'est joyeux, c'est glorieux. Amen? Alléluia. C'est ça. Vous lisez les références à la maison que j'ai mis là dans vos notes. Mon cœur est motivé par ma responsabilité, parce que 2 Corinthiens chapitre 5 dit que je suis ambassadeur pour Christ. Nous sommes les ministres de la réconciliation. J'ai une responsabilité. Si je ne prêche pas l'Évangile, personne d'autre peut le faire à notre place. Amen. J'ai aussi une récompense qui m'attend, parce que la Bible dit qu'un jour, on va se comparaître devant le tribunal de Christ et on va avoir une récompense pour qu'est-ce qu'on aurait fait ici sur la terre. Et ceux qui auront amené une multitude au Seigneur vont avoir les plus grandes récompenses. Amen. Puis, j'ai aussi ma reconnaissance qui fait en sorte que j'ai le désir de partager l'Évangile. Je suis reconnaissant d'être sauvé. Je suis content d'être enfant de Dieu. Et je suis reconnaissant pour qu'est-ce que Jésus a fait pour moi. Et laisse-moi vous dire, je ne veux pas que Jésus soit mort en vain. Jésus, en Psaume 2, 8, dit, « Demande-moi, et je te donnerai les nations, les extrémités de la terre, comme héritage. » Amen. Et comme récompense. Et moi, je veux arriver au ciel et présenter à Jésus les couronnes que nous allons avoir, on va jeter à ses pieds. Mais je veux amener avec moi une multitude de toute nation, de toute groupe ethnique, en disant, « Seigneur Jésus, tu n'es pas mort en vain. Voici ta récompense, Jésus. » Combien de vous aimeriez remercier le Seigneur Jésus pour ton salut? Meilleure chose à faire, c'est de lui présenter les âmes sauvées. Meilleure façon de démontrer votre reconnaissance. Et finalement, Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. Tout le monde dit, je n'ai pas honte. Est-ce que vous avez honte de Jésus ce matin? Quand vous êtes au travail, est-ce que vous avez honte d'en parler de Jésus? Est-ce que vous avez honte de parler de Jésus au magasin? De prier au restaurant. C'est vrai. N'ayons pas honte. On n'a rien à craindre. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Qu'à quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Verset 8 de Actes 1 dit, « Mais vous recevrez une puissance. » Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut. Le mot puissance en grec, c'est dynamis, c'est comme dynamite. Moi, j'aurais honte de prêcher un petit Jésus qui ne fait pas grand-chose aujourd'hui. Vous êtes d'accord? J'aurais honte de prêcher la religion. Mais je n'aurais jamais honte de prêcher un Jésus qui est capable de guérir et de délivrer, un Jésus qui est vivant. Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux venir au piano? On va prier pour terminer ce matin même. On parle des fins de temps. On parle du fait qu'il y a une moisson à récolter. Il y a les nations qui ont besoin de connaître Jésus. Et savez-vous que vous pouvez faire quelque chose? Vous pouvez prier. Vous pouvez envoyer et vous pouvez aller vous-même. Et il y a des gens qui disent, « Oh oui, Seigneur, si tu veux que j'aille en Chine ou en Afrique, envoie-moi. » Il va voir d'abord, avant de vous envoyer en Chine ou en Irak ou avant de vous envoyer pour évangéliser les îles dans le Pacifique ou n'importe où, il va voir quand il te parle. Allez parler avec votre voisin. Allez à la porte à côté. Allez, quand vous êtes au travail, lance ou somme une petite parole, une petite semence de l'Évangile. Je ne dis pas qu'il faut prêcher 24 heures sur 24 au travail, mais il ne faut pas avoir honte de Jésus non plus. Amen. Mais si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu va vous faire confiance avec les grandes choses. Il va voir quand il vous dit, OK, donne 5 pièces pour l'émission, donne 5 dollars. Donne 50, donne 500. OK. Il reste quelque chose à dire ce matin, avant qu'on prie.
Mais on a tellement besoin. Et ce soir, François Bergeron vient, il va parler de la moisson. Et on va mettre entre vos mains un outil qui va rendre ça plus facile même pour cette fois-ci d'inviter les personnes à venir écouter l'Évangile. C'est pas juste ça. Moi, je crois que le plan de Dieu, c'est qu'on soit capable, 24 heures sur 24 heures, n'importe où qu'on soit, de partager l'Évangile. Au travail, dans la rue, en Outre-mer, mais aussi on peut inviter les gens à l'église aussi. Soyez là ce soir. C'est sérieux. Soyez là. Ça va être vraiment de fun. C'est une chose agréable. Mais soyez là ce soir et on va parler de l'évangélisation. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que le 20 avril à Pâques, on va remplir cette salle avec des non-croyants aussi. On va avoir 150 personnes qui vont entendre l'Évangile. Mais c'est notre devoir. Tout le monde dit, je me dois, j'ai le vif désir et je n'ai pas honte. Tu as quelque chose à dire?
Moi, j'ai juste une petite histoire à vous raconter pour rendre vos cœurs sensibles à ce que le Seigneur, des fois, comment est-ce qu'il peut nous parler puis l'écouter. C'est une femme qui avait reçu un message du Seigneur disant que le Seigneur était pour la visiter. Puis la femme, elle avait juste 5 piastres et quelque chose sur elle. Puis elle voulait le recevoir comme faut. Fait que, ben, c'est tout ce qu'elle avait. Fait qu'elle est partie, puis elle est allée au dépanneur, elle est allée chercher une baguette de pain, puis un petit peu de viande froide. Puis elle a dit, au moins, je vais avoir un petit quelque chose pour recevoir le Seigneur. Elle s'en retourne chez elle. Et puis, il y avait un couple de personnes âgées qui cognent à la porte et qui dit « Madame, madame, pourriez-vous nous aider? On a faim, on a froid, on n'a rien à manger. » La femme a dit « Je suis désolée, mais j'ai rien. Je reçois un invité tantôt, puis c'est tout ce que j'ai pour lui offrir, j'ai rien. » Fait que le couple s'en va. La femme, elle avait des remords. Elle sort, elle s'en va en courant. Elle dit, « Monsieur, madame, elle dit, j'ai une baguette de pain. J'ai de la viande à vous donner. » Elle s'en retourne chez eux. Elle a un autre message du Seigneur qui dit, « Merci de m'avoir reçu. »
Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Merci, Père Céleste. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Aide-nous à ne pas manquer ces occasions favorables quand ces choses se présentent devant nous. Seigneur, on a besoin de racheter le temps. Seigneur, ce message, ce n'est pas un message de culpabilité, mais c'est un message d'encouragement, une exhortation de s'occuper des affaires de notre Père. Je me dois, oui, mais j'ai aussi le vif désir. Je veux le faire. Et je n'ai pas honte de parler de Jésus. Je me dois. J'ai le vif désir, je n'ai pas honte. Tout le monde dit encore, je me dois, j'ai le vif désir, je n'ai pas honte. Alléluia. C'est ça qui va faire la différence. Comme on l'a fait il y a quelques semaines, ce n'est pas juste l'œuvre du pasteur. Moi, je peux aller chercher les âmes, une personne par jour pendant une semaine, on va avoir 7 personnes de plus. Mais si tout le monde ici ferait la même chose, si chacun de nous pourrait aller chercher une personne, par jour, pendant 7 jours, on aurait littéralement, on aurait des centaines de personnes. Amen. Ce n'est pas le travail des élites, c'est le travail du corps de Christ. Donc, Père, merci. Donc, avec tous les yeux fermés, on va prier ce matin. Jésus, nous voulons hâter ton retour. Nous voulons que la récolte soit ramasser, que le fruit précieux de la terre soit récolté comme il faut. Seigneur, ce n'est pas force, ce n'est pas puissance, mais pas ton esprit. Tu as dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, sur nous. Seigneur, on ne peut pas le faire. Tu as même dit à tes disciples d'attendre dans la ville jusqu'à ce que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Donc, ce matin, avec tous les yeux fermés, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, moi, je ne suis pas prêt à rencontrer Jésus? S'il viendrait aujourd'hui pour punir les non-croyants, je ne suis vraiment pas prêt. J'ai une bonne nouvelle. Si tu veux, aujourd'hui, tu peux confesser avec ta bouche le Seigneur Jésus tu peux croire dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts et tu peux être sauvé. Aujourd'hui, tu peux quitter cette salle sachant sans aucun doute que tu es enfant de Dieu, que tu es pardonné, que tu as une vie nouvelle en Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, pasteur, je veux que tu pries pour moi? Juste lève la main si tu es là et tu veux donner ta vie à Jésus ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ou est-ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Jésus? Amen. On va chanter dans une minute, mais si vous êtes ici, j'ai à cœur de donner un appel et Donald et Alice vont être ici en avant pour ceux qui veulent. Mais si vous avez besoin de la puissance d'en haut, d'être revêtu de la puissance d'en haut, comme la Bible dit, ils étaient tous remplis de l'Esprit Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. La Bible dit que même si on est chrétien, on est enfant de Dieu et né de nouveau, le Saint-Esprit habite en nous, qu'on a besoin d'être rempli de l'Esprit. L'Esprit doit venir sur nous. Il nous donne la capacité de prier en notre langue et c'est là où on va trouver la force et la puissance nécessaire pour aller évangéliser avec efficacité. Je ne veux pas que les gens partent d'ici avec un fardeau de la chair, mais avec un désir de l'Esprit et avec l'équipement de l'Esprit. Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations, mais il a dit, attendez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Il nous donne le mandat, mais il nous donne aussi la promesse de tout voir. Alléluia. Donc, on va chanter ce matin. Et si vous avez besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence initiale de parler langue, vous pouvez venir en avant. On va chanter juste une fois le chant, puis je vais aller à la porte pour vous donner la main. Et ceux qui ont besoin de recevoir peuvent venir.